Vous écoutez RTL.
Tout de suite sur RTL, l'homme qui ne voulait pas être président. Bonjour Véronique Jacquier.
Bonjour, bonjour à tous.
Bienvenue. Vous êtes journaliste politique à Sud Radio. À vos côtés, Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour à vous.
Journaliste au service politique d'RTL. Alors vous avez tous les deux suivi la campagne présidentielle de François Fillon. Et l'homme qui ne voulait pas être président, c'est lui. En ouvrant votre livre la première fois, Véronique Jacquier, je me suis dit, c'est osé comme titre. Pourquoi un tel titre?
Écoutez, pour deux raisons. La première, il gagne la primaire, mais on se rend compte qu'il n'a rien préparé. Il pense qu'il peut gagner seul et surtout il pense que c'est fait. Il gagne magnifiquement cette primaire. Mmh. Donc face à lui, son adversaire, c'est Marine Le Pen. Donc évidemment, il se dit, ça y est, je suis déjà dans ma tête à l'Élysée. Donc il n'a rien préparé. Alors qu'en septembre, on a déjà Emmanuel Macron qui a fait la danse du ventre à François Bayrou, par exemple. Ensuite, pourquoi il ne voulait pas être président? Parce que quand sort le Penelope Gate, on a tout de suite un homme qui se replie sur lui avec un carré de fidèles et on s'aperçoit qu'on n'a pas du tout affaire à un manager, on se rend compte qu'on n'a pas affaire à un combattant, il n'y a plus personne pour livrer bataille et surtout pour se défendre correctement, même si on parlera évidemment de la façon dont ses avocats ont agi, hein, parce que ça aurait pu être fait autrement. Mais voilà, donc on a quelqu'un qui a montré qu'il était un résistant pendant le Trocadéro, mais sûrement pas un combattant. Et ça, évidemment, tous les fillonistes et toute la droite et tous ceux qui le soutenaient à ce moment-là sont tombés de très haut.
Alors on va reprendre pendant la demi-heure qui nous reste tous ces éléments, parce qu'il y a plein d'histoires dans l'histoire. Dominique Tenza, vous avez suivi cette campagne de François Fillon avant que le canard enchaîné, il y a deux ans, presque jour pour jour, c'est aussi pour ça qu'on vous a invité, ne sorte l'affaire des emplois fictifs de son épouse. Vous vous dites déjà, alors qu'il est le favori des sondages, il y a un truc qui cloche dans la campagne.
On se dit qu'il y a un truc qui cloche dans la campagne de François Fillon, dans le personnage de François Fillon, qui, on se demande effectivement s'il a réellement envie, et je trouve que le titre est très bien choisi, parce qu'on se demande vraiment s'il veut être président. François Fillon, c'est quelqu'un on en parlera aussi, mais c'est quelqu'un qui ne fait pas campagne en fait. Nous, on s'attend à partir, à se dire, allez, ça y est, c'est parti, on est parti pour 5 mois sur les routes, dans les meetings.
Il part au ski, par exemple, la première chose qu'il fait, jours. Il part au ski.
Voilà, c'est quelqu'un qui, on se demande vraiment s'il a envie d'être président. Les sondages sont vraiment, vraiment au beau fixe. Il est évidemment le prochain président de la République. Et en fait, on va se rendre compte vite fait que ça va vite baisser et que cet homme ne veut pas être président de la République.
Et grâce à vous deux, on va découvrir les coulisses et les secrets de cette campagne où l'on découvre un candidat souvent absent, juste après la pause sur RTL.
Je reviens de loin.
La curiosité est un vilain défaut.
Il y a tellement de sujets à déchiffrer.
Thomas Hugues.
Il y a tellement de Français à écouter et à convaincre.
Sidonie Bonnec.
Vous m'avez encouragé lorsque je traversais le désert des sondages.
Sur RTL.
Dans la défaite, le chef se retire sans chercher d'excuses et sans donner de leçons. C'est la règle que je me suis fixée. Vous m'avez tellement donné.
François Fillon n'a pas joué à qui veut gagner 10 millions, il s'est présenté à la campagne présidentielle et il a perdu, ça tout le monde le sait. Mais pourquoi on parle de lui aujourd'hui dans la curiosité sur RTL? Parce qu'il y a deux ans, presque jour pour jour, le canard enchaîné sortait l'affaire Penelope Fillon et le candidat des Républicains voyait sa campagne basculer. On raconte cette élection de l'intérieur avec les journalistes Véronique Jacquier et Dominique Tenza. Je voudrais qu'on commence, qu'on continue avec la personnalité de François Fillon. Véronique Jacquier, vous le décrivez assez désinvolte, injoignable, presque absent, ce qui est très étonnant quand on est en campagne présidentielle.
Oui, exactement. Il était absent et on avait du mal à le joindre. Enfin, son directeur de campagne, hein, Patrick Stefanini, le dit lui-même. Il lui passe des coups de fil, il ne répond pas de l'après-midi, on ne sait pas où il est. On a besoin de lui pour trancher des éléments de campagne. Il n'est pas là non plus. C'est vraiment pas un manager. Il pense... Alors, il y a quelque chose de très important dans la personnalité de François Fillon, c'est que toute sa vie, il a été... Le livre n'est pas un procès en incompétence politique, d'ailleurs. Toute sa vie, il a été bien élu, il a été un notable de la politique et il a eu l'habitude d'avoir toujours des gens qui faisaient le travail pour lui. Et il avait, dans son entourage, des fillonistes, des snipers. Donc,
c'est-à-dire qu'on allait vers lui, mais il n'allait pas vers les autres. C'est ça, dans son boulot quotidien, François Fillon.
Lui ne se mouillait pas, mais appelait un tel pour lui dire « Oh, un tel a mal parlé sur moi, vas-y dans la presse, sors un petit papier. » Bon. Or là, quand on est en campagne présidentielle, on se doit d'être un véritable patron, on se doit de donner le là, et on se doit aussi de retrousser les manches pour vraiment défendre ses propres intérêts.
Oui, Dominique Tenza, ça veut dire qu'il faut une locomotive dans une campagne.
Il faut une locomotive, il faut, quand les députés vont faire campagne pour vous sur le terrain, il faut quand même quelqu'un derrière qui les encourage, qui les appelle, qui leur envoie des textos, des SMS pour les féliciter. Ça, les hommes politiques savent faire en général. On passe un petit coup de téléphone, c'était bien, bravo pour ton élection, bravo François Fillon, on n'a jamais fait ça. Et il y a d'ailleurs un épisode qui illustre assez bien ce manque total d'investissement, c'est le soir de la primaire. Il gagne la primaire, François Fillon. Mmh. Vous l'avez dit, Véronique Jacquin, de façon assez flamboyante, on ne l'attendait pas. On sort quand même d'une guerre fratricide entre Alain Juppé, Nicolas Sarkozy et François Fillon. Qu'est-ce qu'il fait, François Fillon, plutôt que de réunir tout le monde, de tendre la main, d'appeler les uns les autres et surtout les battus? Il rentre chez lui, il s'installe sur le canapé et se regarde une petite série. Comme vous et moi, quand on rentre chez nous pour se reposer.
On sait quelle était sa série préférée de l'époque.
The Crown, à l'époque, je crois qu'il regarde.
Son ancien ami Jean de Boyeux, qu'il a connu pendant des années, dit il n'est jamais aussi bien qu'avec lui-même. D'où le fait qu'effectivement, mais ça ne lui traverse même pas l'esprit d'envoyer un petit texto pour remercier les troupes.
Et avec ses troupes, justement, pendant sa campagne, François Fillon, est-ce qu'il est proche de son staff, les bénévoles, il connaît les gens, il leur serre la main, il les tutoie, il leur souhaite joyeux anniversaire. Enfin, tout ce qu'on peut faire quand on est chef de
Pas du, pas du tout. Il y a même Sébastien Lecornu qui est à l'époque directeur adjoint de campagne, qu'il ne reconnaît pas. Hein. Voilà, qu'il ne reconnaît pas dans un couloir. Sébastien Lecornu sera quand même assez traumatisé par l'épisode.
Attendez, j'ai pas bien compris. François Fillon ne reconnaît pas son directeur adjoint de campagne.
C'est-à-dire qu'en fait, il ne regarde choisi, pas. Vous connaissez l'expression. Il ne calcule pas les gens. Il est quand même humainement d'une grande froideur. Il ne fait pas attention. Donc bien sûr, les petites mains de la campagne, il ne les connaît pas. D'ailleurs, à un moment, je vous raconte qu'à la fin de la campagne, quand ça devient vraiment lugubre, il n'y a plus grand monde au QG et les petites mains de la campagne ont mis la photo de François Fillon et Galège en disant, au moins on le voit si lui ne nous voit pas. Voilà. Après, les troupes, elles ont été de toute façon décontenancées dès le lendemain de la primaire, dès qu'il a fallu effectivement une locomotive, dès qu'il a fallu lancer les débats en réunion, quand il fallait discuter sur un thème de campagne. François Fillon, là encore, c'était pas un chef. Il était là, je vous écoute. Et puis on avait l'impression qu'il avait la tête ailleurs, il regardait en l'air. Et sincèrement, les gens qui ont travaillé avec lui avaient du mal à le défendre et à avoir envie de le suivre. Ils étaient troublés.
De nature, j'ai envie de dire, un problème de nature. C'est quelqu'un qui n'a jamais tranché, c'est quelqu'un qui ne tranche pas, François Fillon. Effectivement, il y avait une décision à prendre, il était injoignable. Alors, il était juste après la primaire, il va partir 15 jours au ski, François Fillon. Donc, il est au ski à Val d'Isère, c'est compliqué de le joindre. Et puis, il le dit, je crois, à un moment, à quelqu'un qui doit prendre la parole dans les médias. Qu'est-ce que je dois dire? C'est vrai qu'on se réfère au chef. Qu'est-ce que je dois dire? C'est quoi la ligne? C'est quoi ce qu'on va défendre?
Je raconte dans le livre que Thierry Soler, le porte-parole de la campagne, est sollicité justement par RTL le 26 décembre au matin. Il est l'invité politique de la matinale. Il va être interrogé sur le fait que le Conseil de résolution de l'ONU condamne les colonisations juives en Cisjordanie. La veille, il appelle François Fillon, il lui dit « qu'est-ce que je dois dire ? Parce que moi, je ne suis pas un spécialiste des questions régaliennes. » Alors François Fillon lui répond par mail « je te dis ce soir, parce qu'il faut se remémorer qu'on est quand même le 25 décembre. Hein. » Donc évidemment, tout le monde est en famille. « Je te dis ce soir. » Bon, et puis le soir, François Fillon lui met par mail « moi, François Fillon, si je suis président de la République, je ne condamne pas la colonisation juive en Cisjordanie. » Alors là, Thierry Soler se dit « mais je ne peux pas dire ça, tout le monde condamne et François Fillon, lui, ne condamne pas. » Donc Thierry Soler, qui est très proche de Bruno Le Maire, appelle Bruno Le Maire, qui appelle Patrick Stefanini. Enfin, ces gens-là n'arrêtent pas de se joindre toute la soirée.
Joyeux Noël.
Voilà, ça phosphore. Là-dessus, François Fillon sort enfin du bois en disant « bon, je vois que les esprits s'échauffent, je vais réfléchir, je vais répondre. » Là, retexto à Thierry Soler, cette fois un texto « moi, président de la République, je ne condamnerai pas la colonisation juive en Cisjordanie. » Donc c'est reparti pour un tour, personne ne comprend plus à ce qu'il faut raconter. Et puis finalement à minuit, donc Thierry Soler est perdu, il dit mais qu'est-ce que je dois raconter demain matin sur RTL? Et là à minuit, François Fillon lui remet un texto en lui mettant raconte ce que tu veux.
Ah oui.
Et moi j'ai écouté évidemment la pige de l'émission et on voit bien Thierry Soler en train de faire des contorsion diplomatique.
Pour ne pas répondre aux questions.
Et plus la campagne avance, plus ce sera...
Il faut condamner le terrorisme islamique plutôt que de condamner les colonisations.
Vous vous souvenez peut-être de l'histoire du rhume, du gros rhume, du petit rhume.
Ah, ça, on va se garder pour dans un instant.
On va raconter ça. Et on va aussi raconter le goût de François Fillon pour les à-côté, les fastes de la fonction, notamment de Premier ministre. Vous racontez tout ça, Véronique Jacquet, dans L'homme qui ne voulait pas être président. A tout de suite sur RTL.
RTL.
C'est la débandade. J'ai passé plus de 5 heures chez les gendarmes.
Sidonie Bonnec.
J'étais au Sénat, j'employais toute la familia.
Thomas Hugues.
Mon avocat dit que j'étais un employeur modèle.
La curiosité est un vilain défaut.
Je suis François. Ils veulent pas de Pénélope et des RTT.
Je suis François, les guignols qui se moquent de François Fillon. Et sur RTL, on vous révèle les secrets de campagne de François Fillon avec Dominique Tenza, journaliste politique sur RTL et Véronique Jacquier, journaliste politique également. Vous publiez L'homme qui ne voulait pas être président, titre fort, que vous nous étayez, vous nous racontez un peu les coulisses de cette campagne et de cet homme aussi. Alors, on a dit beaucoup de choses plutôt négatives.
Ses oreilles doivent siffler un peu.
Oui, c'est un homme froid, il a beaucoup de failles, il est très solitaire, il ne reconnaît pas les gens, il ne sait pas vraiment s'entourer. Il avait des qualités aussi pour être arrivé aussi loin. Quelles qualités, Véronique ?
Tout à fait. Alors, le livre, je le répète, n'est pas un procès en incompétence politique. Bien entendu, il a tout à fait la stature d'un homme d'État. C'est dommage qu'il ne soit pas allé jusqu'au bout, d'ailleurs, qu'il lui manquait cette dimension de combattant. Hein. C'est ça l'architecture de mon ouvrage. Les qualités qu'il a, c'est un homme de conviction. C'est un homme qui avait une vision pour la France. Dans son programme, on le voit. Sur le côté libéral, il était cohérent. Sur le côté conservateur, il avait ses cohérences.
Il parlait bien.
Souvenez-vous qu'il a énormément capitalisé pendant la primaire, lors de tous ses passages télé. Il était de loin le jugé le plus crédible et le plus pertinent, ayant une stature d'homme d'État, notamment pour porter la voix de la France à l'international.
D'homme honnête, notamment chez Karine Lemarchand dans L'Ambition Intime, oui. François Fillon fait M6, un passage là. Et sa cote de popularité bondit à ce moment-là parce qu'on se dit finalement c'est quelqu'un d'honnête. Et puis dans les meetings, pour avoir suivi François Fillon en meeting régulièrement, c'est un orateur hors pair. C'est quelqu'un qui... Alors, il a la chance d'être entouré de plumes qui écrivent ses discours, qui sont vraiment des gens très compétents. Et lui récite les discours, il les dit, il a une diction qui est parfaite. Il est... c'est très bien écrit, c'est très bien ciselé. Et lui est un orateur hors pair, François Fillon. De loin, durant la campagne, le meilleur.
Après, on ne peut pas lui enlever que c'est le premier qui a dit « je suis à la tête d'un État en faillite », il le pensait sincèrement. Et c'est un homme qui voulait faire des choses pour la France parce qu'il disait « depuis des décennies, la France se casse la gueule parce que les hommes politiques n'ont pas été courageux ».
Alors ça, c'était quand il était Premier ministre, au tout début, dans les premières semaines après son arrivée à Matignon. État en faillite, mais État dont il va profiter des fastes. Pardon pour la transition, mais je ne pouvais pas la louper. Dans votre livre, Véronique Jacquier, vous racontez... Un, qu'il prend ses week-ends, ce qui peut sembler surprenant pour un Premier ministre. Et deux, qu'il va dans la Sarthe avec des moyens, disons, surprenants. Lesquels ?
Oui, alors il va dans la Sarthe quasiment tous les week-ends. Il rentre tout d'abord en hélicoptère et ensuite en Falcon. Alors il faut rappeler que son manoir de Sablé-sur-Sarthe, le manoir de Bossé, est à 230 km de Paris. C'est pas très loin, hein. Il pourrait rentrer en train ou il pourrait même rentrer en voiture particulière et on pourrait même lui donner l'absolution s'il mettait le gyrophare. Non mais voilà, en fait...
Mais ça coûte cher ça de prendre, j'imagine, l'hélico plus...
Ça a été calculé 27 000 euros par semaine, donc 1 300 000 euros par an pour les voyages de François Fillon. C'était sorti quelques temps plus tard dans Le Canard Enchaîné. Ce qui est étrange, c'est qu'effectivement, pour François Fillon, c'était comme ça. Il était Premier ministre, et n'oublions pas, c'est ce que je raconte dans mon ouvrage, qu'il est arrivé à la politique par hasard, que la politique lui a permis de s'anoblir et de s'enrichir, pas au sens de vénal, pas au sens de la vénalité, parce qu'il aurait pu aller gagner beaucoup d'argent dans le privé, mais il est devenu, par le biais des élections, un seigneur de la Sarthe, président du Conseil Général, etc. etc. C'est devenu un grand notable et c'est en ce sens qu'il prenait le Falcon et que ça lui paraissait tout à fait normal. La première chose qu'il fait quand il est ministre en 93, il s'achète le manoir, il se donne un statut.
Alors, vous nous décrivez finalement un François Fillon qui, dans les premiers mois de sa campagne, est un peu à côté de la plaque, ou en tout cas pas assez combattant, pas assez meneur d'hommes. Mais forcément, et c'était il y a deux ans presque jour pour jour, il y a ce cataclysme, 25 janvier 2017, Le Canard Enchaîné révèle l'affaire des emplois fictifs de son épouse, Pénélope Fillon. Voici la toute première réaction de François Fillon sur RTL, écoutez.
Je vois que la séquence des boules puantes est ouverte. Je ne ferai pas de commentaires parce qu'il n'y a rien à commenter. Mais je voudrais simplement dire que je suis scandalisé par le mépris et par la misogynie de cet article. Alors parce que c'est mon épouse, elle n'aurait pas le droit de travailler ? Imaginez un instant qu'un homme politique dise d'une femme, comme le fait cet article, qu'elle ne sait faire que des confitures, toutes les féministes hurleraient. Voilà ce que j'ai à vous dire.
Ça se passe comment, Dominique Tenza ?
Bordeaux. Ouais. Ça se passe à Bordeaux et c'est une journée où il est censé mettre en scène la réconciliation avec Alain Juppé, avec lequel il s'est affronté
message
assez durement
brouillé.
Dans la première. Message totalement brouillé. Et quand on entend François Fiolin, on comprend qu'il ne prend pas du tout la mesure de ce qui est en train de se passer.
Ça veut dire qu'il n'y a pas du tout la mesure. Une communication de crise qui est mise en place avec ses équipes à ce moment-là ?
Absolument pas. En fait, la plupart des équipes, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au sein même de l'équipe Fillon, parmi ses plus proches, je crois que deux personnes doivent être au courant de ça. Et encore, il en aura parlé parce que les journalistes du Canard Enchaîné ont tenté fin décembre de le joindre pour avoir une confirmation. Il a dit à Gérard Larcher, président du Sénat, et l'un de ses proches, Patrick Stefanini, les journalistes essaient de me joindre pour savoir un petit peu ce qui se passe, mais personne n'est au courant. Et la plupart des gens qui entourent François Fillon découvrent ce jour-là que Pénélope Fillon...
Mais c'est ça,
vous les côtoyez,
Dominique Tenza. Ils sont dans quel état quand ils découvrent ce scoop sur leur patron ?
Alors moi, j'en croise un qui est un des très proches de François Fillon, qui fait toute la campagne, pour qui Fillon est un père spirituel, qui vraiment l'accompagne, et ils sont désemparés. Je le vois avec les larmes aux yeux sur un escalier. Je lui demande « ça va ?» Et il me dit « oui, ça va, ça va ». Il est en train de sécher ses larmes et en fait, il découvre totalement, le ciel est en train de leur tomber sur la tête parce que ça va très vite après. Deux, trois jours après, il continue de s'enfoncer, il va aux 20h, et puis si je suis mis en examen, et puis j'ai embauché aussi mes enfants, et puis voilà, et tout s'accélère, ça ne s'arrêtera jamais. Et petit à petit, le staff est totalement désemparé.
Autre séquence incroyable à venir pendant cette campagne de François Fillon, au Salon de l'Agriculture. On vous la raconte dans un instant sur RTL. Restez avec nous les curieux.
C'était jeudi dernier. RTL. Comme presque tous les jours, François Fillon se rend de chez lui jusqu'au siège de Tikeo, une société de 100 personnes spécialisée dans les placements financiers.
La curiosité est un vilain défaut.
François Fillon est l'un des associés de cette entreprise depuis le 1er septembre.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Un salaire confidentiel mais supérieur à 10 000 euros mensuels selon plusieurs sources.
C'est l'histoire d'une campagne ratée que l'on vous raconte sur RTL avec les journalistes politiques Véronique Jacquier et Dominique Tenza. Cette campagne électorale, c'est la présidentielle 2017. Celui qui passe à côté de son destin, c'est François Fillon. Alors, il y a plein d'anecdotes à découvrir dans votre livre, Véronique, publié aux éditions de l'Artilleur. Et vous les avez vécues, puisque vous avez suivi cette campagne. Dominique Tenza, il faut raconter quand même ce salon de l'agriculture.
Ouais, j'en ai même
tellement révélateur de ce candidat absent.
Absolument.
Quoi. Qu'est-ce qui se passe,
hein ? Déjà, le salon de l'agriculture, c'est quelque chose pour les hommes politiques qui est très important, et d'autant plus en temps de campagne présidentielle. On arrive à 9h, à l'ouverture, je crois 8h, l'ouverture du salon. On a tous rendez-vous pour faire la visite avec François Fillon, qui devait y passer la journée. Et puis là, François Fillon n'arrive pas. 8h02, 8h03, 8h04, personne. Pas de François Fillon. Ses équipes sont pourtant là. Hein. Son attaché de presse est là. Et personne est là. Ma collègue de l'AFP qui couvre le salon, la visite au salon, nous dit finalement il ne viendra pas, François Fillon.
Mais il a une excuse, il avait piscine, il n'avait pas d'excuse, quelque chose.
Personne ne sait, il vient d'envoyer un mail à ses équipes, il est 8h05, 8h10, François Fillon ne viendra pas. On a avec nous l'attaché de presse de François Fillon qui est censé quand même le suivre et connaître son programme et qui découvre grâce à nous que François Fillon ne viendra pas. Pire, il y a Dominique Bussereau, ancien ministre de l'Agriculture, qui soutient François Fillon, enfin en tout cas qui aide François Fillon pendant cette campagne et qui doit faire la visite avec lui, qui est là et qui se retrouve devant les caméras, à plus savoir quoi dire. Bah oui, j'attends François Fillon, bah il viendra pas, monsieur Bussereau.
Et vous dites quoi, d'accord, à tous à ce moment-là ?
Là, on se dit,
qu'est-ce qu'il fait, François ?
Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il fait, François Fillon ? Ouais. On se dit, il est en plein dans les affaires, on se dit, il va lâcher. François Fillon, il va lâcher. On apprend qu'il nous convoque pour une conférence de presse à 14h, je crois, à son staff, son QG de campagne, qui est à 200 mètres de la porte de Versailles, donc vraiment juste de l'autre côté du périphérique. Et puis là, c'est le fameux je ne me rendrai pas, je résiste, on veut m'abattre, je ne me laisserai pas abattre. À partir de là, c'est un gros clash dans la campagne, puisqu'il y a toute une partie de ses soutiens, notamment Bruno Le Maire, le premier, qui vont décider de lâcher François Fillon.
Véronique Jacquier, qu'est-ce qu'il est devenu, François Fillon, après son échec ? Je rappelle qu'il ne se qualifie pas pour le second tour de la présidentielle.
Déjà des petites vacances, j'espère. Bah, la première chose qu'il fait, c'est qu'il part sans se retourner, ce qui a retourné beaucoup de gens, beaucoup de militants, évidemment, beaucoup de fillonistes. Il est parti sans explication, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui restent encore sur leur faim par rapport à cette histoire. Il a effectivement trouvé du travail chez Tikeo.
C'est ce qu'on entendait
voilà,
tout à l'heure.
Certains disent grâce à Anne-Méo, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est mis en examen.
Il faut rappeler qui est
Anne-Méo. Oui, qui était la patronne de sa campagne, hein, la directrice de sa campagne, à titre bénévole, a-t-elle toujours souligné. Donc il est chez Tikeo, il est aussi président de la section constructeur au sein de la Fédération internationale de l'automobile, parce que c'est un grand passionné d'automobile. Et voilà, il est parti dans finalement la vie qui a toujours été la sienne, parce parce que j'explique dans mon ouvrage qu'il y a eu la vie politique, mais la vie politique, ça a été une partie de sa vie. Et finalement, il y a tout le reste de sa vie vers laquelle il est retourné, mais vraiment, vraiment sans état d'âme. Trois jours après le premier tour de la présidentielle, où on aurait pu imaginer un homme brisé, et par son échec personnel et par l'échec de la droite, un des acteurs de la campagne le croise dans la rue. Ben non, il n'est pas marqué. Voilà,
ils sont toujours ensemble avec Pénélope, petite voilà. Seconde potin.
A priori, ils sont toujours ensemble avec Pénélope. Je crois qu'il était surtout soulagé que ça se termine, en fait.
Alors attention.
La campagne a été chemin de croix qu'il était certainement soulagé que ça se termine.
Il était soulagé que ça se termine, mais là, il est très anxieux à l'idée d'un procès. Il est très anxieux pour sa femme Pénélope parce qu'elle n'est pas armée pour vivre ça.
Merci beaucoup, merci à tous les deux. Dominique Tenza, on vous retrouve dans les journaux sur RTL. Et Véronique Jacquier, ce livre, L'homme qui ne voulait pas être président, est donc publié aux éditions de L'Artilleur. Merci.
La curiosité est disponible 24h sur 24. Vous pouvez nous réécouter en replay sur RTL.fr ou vous abonner à nos podcasts pour nous faire découvrir à vos amis et vos ennemis. On en a tous.
Demain à 14h, on retracera la carrière exceptionnelle de Clint Eastwood. Et il sera aussi question de politique, puisqu'il a été élu maire dans sa vie. Et puis on fera une plongée dans les coulisses d'un hôpital pour découvrir le quotidien des patients et des soignants.
Bonjour Flavie Flamand.
Bonjour. RTL. La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.